on veut continuer notre série de prédications sur marcher sur le chemin divin. On a vu plusieurs choses jusqu'à maintenant ensemble et comment Dieu nous appelle à être de ceux qui vont marcher sur le chemin divin, de marcher dans ce que Dieu a et veut pour chacun d'entre nous. On a vu ensemble le chemin de la sainteté, on a vu le chemin du miracle. Et ce matin, je veux amener comme pensée qui est sur le chemin divin, direction, le chemin divin. Que l'on a besoin de choisir, alléluia, pour marcher sur ce chemin divin. C'est une décision. J'ai besoin de prendre cette direction-là. Dans nos vies, il y a plein de possibilités. Il y a plein de directions qu'on peut prendre dans nos situations, dans les choses particulières dans lesquelles on peut vivre à l'intérieur de nos vies. Mais on a besoin de choisir de marcher sur ce chemin divin. Et si on prend cette décision-là, il y aura des défis à l'intérieur de nos cœurs. Il y aura des situations qui seront particulières. Il y aura des choses qui prendront place et dans lesquelles on aura besoin de choisir, de dire, « Seigneur, voici la direction que je veux prendre. » Et à travers ce chemin-là, il y aura besoin de persévérance, il y aura besoin de ténacité, il y aura besoin, alléluia, de patience, il y aura besoin de garder nos cœurs et garder nos vies. Mais on a besoin de réaliser et de se poser la question. Et ce matin, on doit, j'aimerais qu'on puisse le faire un peu sous cette forme-là ce matin, de se poser la question, est-ce que je suis en train de marcher sur le chemin divin? Ou est-ce que je suis en train de prendre une direction qui ne serait pas celle que Dieu aurait pour ma vie? Est-ce que je suis en train, ou plutôt j'ai marché sur le chemin divin, j'ai vu le miracle, j'ai vu la main de Dieu entreprendre, mais à travers des situations, tranquillement, j'ai bifurqué, tranquillement, j'ai permis des choses, tranquillement, j'ai laissé des choses prendre place à l'intérieur de ma vie, de mon cœur, amertume, colère ou certaines autres affaires qui ont pris place, des esclavages des fois même, qui ont pris place à l'intérieur de nos vies, qui tranquillement nous ont amenés dans une direction. Et que si on ne réalise pas, alléluia, on va perdre la bénédiction de ce que Dieu veut faire et accomplir à l'intérieur de nos vies. C'est dit dans Isaïe chapitre 43, le verset 19, c'est dit, « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le chemin d'arrivée, ne la connaîtrez-vous pas. » Et là, il dit, « Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Le texte dit, alléluia, que Dieu veut faire quelque chose qui est sur le point d'arriver, que c'est la chose veut prendre place. Dieu est celui qui veut l'accomplir. Et le texte dit qu'il veut, alléluia, faire, ça dit, ne la connaîtrez-vous pas. Alors, la dimension du texte, c'est qu'il est possible que Dieu veut faire quelque chose, puis qu'on ne la saisit pas, qu'on ne la voit pas. Et ça, dans le texte ici, c'est pour moi la pensée la plus triste qui peut être de ne pas saisir ce que Dieu a pour nos vies, de manquer ce que Dieu pour chacun nous vit, pour toutes sortes de raisons, qui peut sembler quelquefois valable, qui peut sembler quelquefois être OK, que l'on peut simplement les vivre d'une certaine façon en disant que tout cela est possible, mais qui pourtant nous amène à perdre ce que Dieu veut faire à l'intérieur de nos vies. Et dans le mot, le texte, quand ça dit « je vais faire une chose nouvelle », le mot « faire », c'est le mot hébreu « haza », qui est le même mot, alléluia, dans les deux termes hébreux pour la création, qui un est « bara » et l'autre qui est « haza ». Alors, lorsque Dieu dit dans la Genèse, chapitre 1, qu'il a créé, qu'il a formé, c'est le même mot ici, alléluia, dans le texte d'Isaïe 43, 19. Faire, c'est le même mot, alléluia, que dans la Genèse. Et dans le texte, dans la pensée de ce texte-là, il y a une idée de former, mais de créer. Il y a une idée de faire quelque chose, de former, de créer, d'accomplir quelque chose, de fabriquer quelque chose. Dieu est en train de dire, je vais fabriquer quelque chose, je vais faire quelque chose de nouveau, j'ai fabriqué quelque chose de nouveau. Et le texte dit, je vais fabriquer un chemin dans le désert. Je vais fabriquer un fleuve, alléluia, dans la solitude. Je vais faire une chose, je vais accomplir ce miracle-là, je vais faire ce prodige-là. Et le texte dit, à l'intérieur de cela, le chemin du désert, j'aimerais qu'on puisse saisir que souvent on pense et souvent nous est relaté. J'ai lu quelque chose dernièrement qui m'apprenait ceci, que je ne m'étais jamais arrêté sur cette pensée. On entend bien souvent des gens réfugiés, on entend aux nouvelles des bateaux qui font naufrage, que des dizaines de personnes, sinon, alléluia, peut-être même quelquefois des centaines de personnes meurent chaque année à travers ces bateaux qui vont, où les gens, les personnes qui leur ont été relatées une pensée, ont pris ces bateaux-là et qui sont fait naufrage, qui sont morts. Mais j'ai lu dernièrement qu'il y a aussi des milliers de personnes qui meurent dans le désert, voulant se réfugier, voulant passer d'un endroit à un autre. Et souvent, c'est le désert du Sahara où ils vont partir, ou vont quitter. Et à travers ce désert-là, des centaines de personnes vont mourir dans ce désert. Souvent, le désert est semblé être un lieu de mort, de soif, un endroit où il y a la solitude. C'est pas un endroit nécessairement où tu désires majoritairement vivre. Mais à travers cela, alléluia, Dieu dit, et souvent la raison pour laquelle les gens meurent, c'est parce que les gens se perdent dans le désert. J'ai lu encore qu'il disait que des gens qui mouraient à quelques kilomètres d'un endroit qui devait être leur destinée, mais parce que les gens se sont perdus, ont tourné en rond, ces personnes-là sont mortes à quelques kilomètres de leur destination. Pourtant, il n'y avait pas des centaines et des centaines et des centaines de kilomètres pour s'y rendre. Il n'y avait que quelques kilomètres, mais où les gens sont morts à travers cela. Le texte dit aussi qu'il y a un fleuve, que Dieu mettra un fleuve dans la solitude. Alors, non seulement il va faire un chemin dans le désert, il va tracer un endroit pour être capable de se rendre là où Dieu fait, il va fabriquer un chemin pour être capable de se rendre, mais le texte dit qu'il va mettre aussi un fleuve dans la solitude, là où est la sécheresse, là où il n'y a pas d'eau, là où c'est pas l'endroit où tu vas trouver de l'eau en abondance. Le texte dit que Dieu est celui qui va mettre un fleuve dans ce désert. Winston Churchill dit ceci: là où se trouve une volonté, il existe un chemin. Là où il se trouve une volonté, existe un chemin. Et lorsque j'ai lu cette pensée-là, alléluia, la pensée qui est venue dans mon cœur, c'est la volonté et celle de Dieu dans le texte. Alléluia, Dieu a une volonté de faire un chemin dans le désert. Et dans cette volonté-là, les choses vont arriver. Alléluia, le chemin va exister parce que la volonté de Dieu, alléluia, en a voulu ainsi. Parce que Dieu a voulu le faire, parce que Dieu a voulu l'accomplir. Ce n'est pas dans la pensée positive, ce n'est pas dans les choses humaines nécessairement, mais pour nous en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, on peut comprendre que Dieu est celui qui va le faire, que Dieu est celui qui va l'accomplir. Vous savez ceci, lorsqu'on regarde dans la parole, on réalise comment Dieu est celui qui a tracé, a fait les choses. Et je vais vous amener une pensée d'un endroit où je crois que Dieu est celui qui a établi un chemin. Et je vais vous parler ce matin quelques instants de la traversée du peuple de Dieu de la mer Rouge. Lorsqu'ils se sont retrouvés à cet endroit, ils ont vu les miracles, les prodiges de Dieu pour la sortie d'Égypte. Ils ont vu comment le Seigneur est celui qui a entrepris, comment à travers les plaies, Dieu a amené la liberté. Mais alors qu'ils sont allés, qu'ils ont entré et qu'ils sont partis pour aller dans la terre promise, le chemin, alléluia, n'est pas nécessairement ce que nous on peut. Et Dieu regarde pas les choses, le chemin dans lequel le peuple va emprunter, et c'est vrai dans nos vies, il ne regarde pas un chemin ou ne trace pas un chemin en se posant la question: est-ce que je vais être capable, est-ce que je vais pouvoir leur rendre à la destination? Ce n'est pas la façon dont Dieu, nous, on regarde les choses. S'il y a un travail à faire, on va regarder: est-ce que je vais être capable de faire ce travail-là? Est-ce que je vais avoir la capacité d'accomplir le travail? Si, par exemple, on veut se rendre à un endroit, on va regarder si on a la voiture pour être capable de se rendre. On va regarder si on a les finances pour être capable de se rendre à cet endroit-là. Avoir assez pour mettre de l'essence et tout ça. On va comptabiliser, on va regarder dans la possibilité de ce que l'on peut. Mais Dieu ne voit pas les choses de cette manière-là. Dieu voit les choses dans ce qui est le meilleur. Et dans le meilleur, Dieu n'a jamais dans sa pensée la question de « est-ce que je vais pouvoir pour le meilleur? » Dieu ne réfléchit pas dans la dimension du pouvoir parce qu'il peut toute chose. Il a la capacité de toute chose. Ça dit dans Exode chapitre 13, verset 17, ça dit: « Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne les conduit point par le chemin du pays des Philistins, puis quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. J'aimerais qu'on puisse mettre la prochaine diapositive. Sur cette carte-là, vous voyez en bleu, c'est un, pour ceux qui sont à l'arrière, c'est un peu plus loin, mais vous voyez ce qui est tracé en bleu, c'est probablement, je dis bien probablement, la route que le peuple d'Israël a pris pour se rendre jusqu'à Canaan. Mais la réalité de ce texte-là, lorsqu'il est dit dans le texte que Dieu aurait pu les faire passer par le pays des Philistins est celui qui serait plus à votre droite, où c'est marqué Gaza, là, c'est juste pas tellement loin à travers tout ça. Dieu aurait pu les faire passer et se rendre directement vers Canaan. Mais la réalité, c'est que Dieu leur a fait faire un détour. Et le but, le détour, n'était pas dans le fait de ce que Dieu pouvait lui faire ou accomplir, parce que la facilité était, le texte dit à ce moment-là, que Dieu aurait pu faire, que le chemin des Philistins, c'était le plus proche, c'était la façon pour qu'ils puissent se rendre plus rapidement. Mais le texte dit à ce moment-là que Dieu les a fait faire un détour par le chemin du désert. Cet endroit-là est devenu le chemin que Dieu avait tracé pour eux. Et le peuple de Dieu, alors qu'ils se sont retrouvés à la mer Rouge avec les Égyptiens qui venaient pour les mettre à mort, on peut se poser la question, alors que tu as la mer Rouge sur un bord, alors que tu as la mer Rouge sur un côté, puis que tu as l'armée égyptienne qui est sur le bord, tu vois la poussière qui est là, et tu sais qu'ils s'en viennent pour te mettre à mort, tu sais qu'ils s'en viennent pour te saisir, et tu es pris de part et d'autre. Ça dit dans Exode 14:9 que les Égyptiens ont poursuivi à ce moment-là, et tous les chevaux, les chars, Pharaon, ses cavaliers et son armée, ils atteignirent campé près de la mer. À ce moment-là, ils se sont trouvés là, et le verset 10 dit, « Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. » Le texte dit qu'alors qu'ils semblent être pris comme dans une sandwich à travers ça, où il y a la mer Rouge qui semble les empêcher, être un empêchement, une impossibilité, alléluia, et l'autre bord semble être les agresseurs de ceux qui vont venir pour détruire, pour mettre à mort ou encore pour en ramener dans l'esclavage, mais le texte semble nous amener la pensée d'une destruction, et à ce moment-là, ils se retrouvent pris dans une dimension de ce qui prend place. Alors, dans ce moment-là, tu poses plein de questions, tu commences à douter. Dieu, vraiment, c'était-tu vraiment c'est la bonne affaire? On avait-tu bien fait de quitter en Égypte? On a-tu fait la bonne chose? On aurait peut-être dû, au moins, on ne serait pas mort. Puis là, ils ont commencé, lorsque vous lisez, continuez à lire le texte, on comprend que là, ils vont commencer à crier à Dieu, mais c'est davantage leur cri était un cri de murmure que d'un cri, alléluia, de rendre gloire à Dieu, puis que Dieu était pour leur donner la délivrance. Et à travers ce moment-là, de cette dimension-là, des fois, on fait la même affaire, alors qu'on est sur le chemin divin sur lequel Dieu nous appelle, et on a besoin de choisir d'être là, de choisir d'y marcher, de choisir de vouloir y vivre. Mais à travers ces moments-là, on peut douter. Et qu'est-ce que l'on va voir? Est-ce qu'on va voir le chemin de ce que Dieu est en train de faire? Souvent, ce que l'on va voir, c'est ce que nos émotions, nos sentiments, ce que nos pensées nous donnent de voir. Et souvent, ça va être, tout cela va nous amener dans une dimension qui ne sera peut-être pas celle à laquelle Dieu nous appelle, ou le chemin dans lequel Dieu veut qu'on soit. Ils se sont retrouvés devant la mer Rouge, alléluia, voulu de la part de Dieu. C'était le plan, c'était la volonté. Le texte dit, on a lu plus tard, juste auparavant, pardon, que Dieu avait dit qu'il les ferait passer par le chemin de la mer Rouge. Et ce que l'on voit est souvent bien différent de ce que Dieu voit. Et notre choix doit être basé, alléluia, sur ce que Dieu voit. Lorsque Jésus était dans le jardin de Gethsémané, et qui va se retrouver là, il va dire, il va choisir de marcher, alléluia, sur le chemin de Dieu. Il va choisir de marcher dans le plan de ce que le Père avait mentionné. Il va déclarer, non pas ma volonté, mais la tienne. Il va prendre cette décision-là, et Dieu est celui qui va accomplir. Dieu est celui qui va le faire. Je vais vous dire ceci, que le peuple de Dieu a vu une mer rouge et une armée puissante. Le Dieu lui a vu un chemin, alléluia, dans la mer rouge. Lorsque Dieu a regardé la mer rouge, il a vu un chemin. Lorsqu'on regarde dans cette dimension-là, on a besoin de saisir Dieu. Lorsque vous lisez tout le texte, Dieu est celui qui va délivrer, qui va ouvrir la mer rouge, où le Seigneur est celui qui va entreprendre, et Dieu est celui qui va agir. Mais quand tu regardes, c'est pas 5-6 personnes, là. C'est des centaines, des milliers de personnes qui vont passer la mer rouge. Dieu a dû faire toutes choses pour être capable que des milliers puissent passer des années à l'endroit où là où la mer va s'ouvrir et où le peuple de Dieu va passer à sec, que c'est l'endroit où ils peuvent descendre, et l'endroit où ils peuvent monter de l'autre côté. Ils sont arrivés à l'endroit où Dieu avait planifié. Et j'aimerais juste dire ceci, je ne le sais pas, mais j'aime à m'arrêter dans la pensée de, est-ce que Dieu, quand Dieu, dans la Genèse, a créé les cieux et la terre, et quand il a séparé les eaux d'avec la terre, est-ce que déjà à ce moment-là, il avait planifié dans sa création de la séparation ou de façonner, de faire, comme le texte dit, de hasard, façonner, créer, accomplir? Est-ce que Dieu déjà avait mis en place des centaines, des dizaines d'années auparavant, alléluia, des centaines d'années auparavant, avait déjà fait la création en fonction que plus tard, un peuple, le peuple de Dieu, se retrouverait à cet endroit-là, mais où le Seigneur avait déjà mis tout en place, de simplement que lorsqu'il ouvrirait la mer rouge, tout avait déjà été planifié. À ma pensée, c'est que je sais pas quand que le chemin était fait, mais je sais qu'il a été fait avant qu'il arrive. Je sais que Dieu avait planifié les choses. Dieu n'est pas jamais pris au dépourvu. Dieu n'est pas arrivé que lorsque le peuple de Dieu s'est trouvé à la mer rouge, Dieu ne s'est pas posé la question, ben qu'est-ce qu'on fait là? Dieu n'a pas commencé à se questionner en disant, qu'est-ce que je peux faire? Dieu a regardé la chose et la volonté, le plan de Dieu, le chemin était tracé. Et lorsque je regarde ce texte-là où Dieu a ouvert la mer rouge, où ils sont passés à sec, alléluia, nous, on construit des ponts. Nous, on construit des tunnels. Dieu est celui qui ouvre la mer. Vous savez ceci, alléluia, ça nous prend des dizaines de mois, ça nous prend quelques années pour construire des ponts et tout ça, toute la complexité de la chose. Dieu, en un moment, un peuple, des centaines, des milliers de personnes ont passé à sec, alléluia, sur le chemin que Dieu avait tracé. Et vous savez ce qui est la beauté de la chose à travers ça? C'est qu'alors qu'ils se retrouvaient là, ça dit dans Exode chapitre 14, verset 17, que non seulement Dieu miraculeusement a fait que le peuple puisse passer à sec, mais des deux côtés, comprenez bien ma pensée qui est celle-ci. Alors qu'ils se retrouvaient dans un dilemme où il y avait un bord la mer et un bord les Égyptiens, des deux côtés, Dieu va amener la délivrance. Des deux bords, Dieu va amener la délivrance. Ça dit au verset 17, « Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils entrent après eux, et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers, feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. » Dans ce texte-là, il est parlé de la gloire de Dieu, de ce que Dieu accomplit et fait à l'intérieur de chacune de nos vies, de ce qu'il peut faire, de ce qu'il peut accomplir, de ce que Dieu est capable de faire à travers tout cela. Non seulement il va amener la délivrance, mais tout cela va servir à la gloire. Et lorsque tu lis plus loin, on commence à comprendre que même cette situation-là avait créé de la peur chez les Cananéens et donnait la possibilité, si le peuple de Dieu aurait choisi alors qu'il était au port de Canaan, d'entrer dans la terre promise, déjà Dieu avait préparé, ils ont refusé d'entrer dans la terre promise. Mais Dieu avait déjà préparé Le peuple des Cananéens était déjà dans la peur à leur arrivée au pays de Canaan. Et cette œuvre-là en était l'un des fruits. La peur était l'un des fruits de cette œuvre-là, du de la mer Rouge. Et on a besoin de permettre à Dieu et de comprendre que Dieu est celui qui, sur ce chemin-là, il n'y a pas seulement la dimension de notre propre vie, mais il y a la dimension de la gloire de Dieu qui prend place. Trop souvent, on arrête nos chemins à la pensée de ce qui est pour nous-mêmes, mais on oublie souvent la pensée de la dimension de la gloire de Dieu à l'intérieur de nos vies. Si seulement tu vis ta vie sans la gloire de Dieu dans ta vie, tu ne marches pas sur le chemin divin. Si dans les travers, la situation dans laquelle tu te trouves, on peut être bien. Je vais vous dire ceci, il est possible d'être heureux. C'est possible d'être bien sans Dieu sur cette terre. Mais on veut choisir, nous, de vivre et être heureux avec Dieu. Je n'ai pas choisi, alléluia, Dieu pour me rendre d'abord et avant tout heureux. J'ai choisi d'être heureux avec Dieu. J'ai choisi d'avoir la joie de Dieu dans ma vie, alléluia, parce que Dieu est celui qui la donne, parce que Dieu est celui qui donne la paix. Est-ce que je suis en train de dire que les gens sont tous en paix? Non, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais je suis en train de vous mentionner que le but pour lequel on sert et on marche avec Dieu, sur le chemin de Dieu, c'est pas juste pour nos propres bénéfices, sinon on marche de façon égoïste. Mais alléluia, on veut choisir de marcher avec Dieu. Je vais vous dire ceci, il y a des gens qui ne marchent pas sur le chemin divin et puis leur vie va très bien. Mais de marcher sur le chemin divin nous donne de marcher avec Dieu et d'avoir sa paix, sa joie et être heureux. D'avoir, alléluia, la grâce de Dieu à l'intérieur de nos vies. Et vous savez, des fois, nos pensées sont bien loin de celles de Dieu. Lorsque le peuple de Dieu s'est retrouvé à ce moment-là, la pensée de cette nation-là était bien loin de toute la pensée de Dieu. Dans Isaïe chapitre 55, verset 8, ça dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés, au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Le mot « pensée » ici, ce n'est pas juste une idée, ce n'est pas juste une pensée. Dans le texte, dans la pensée du texte encore hébraïque, c'est l'idée d'un dessin, d'un projet, d'une invention. OK, c'est pas juste nous autres, on peut arrêter cela à une réflexion, à une pensée. Mais dans le texte hébraïque, ça va plus loin que ça. Dans le texte hébraïque, il y a vraiment une dimension d'un dessin, d'un projet, d'avoir inventé quelque chose. Alors, il dit, mes pensées, mes inventions, mes projets, mes dessins sont bien loin de vos dessins, de vos projets, de vos inventions. Pourtant, l'homme a une grande capacité d'invention. Quand tu regardes ceci, quand tu regardes des téléphones cellulaires, quand tu regardes une clé USB où tu peux mettre et mettre tellement d'affaires, tout ce que l'on peut faire dans notre société, toutes les voitures dans lesquelles on est et tout ça, la société, de toutes les capacités au niveau de médecins, de médical et de toutes certaines possibilités. Je vais vous dire ceci, l'homme a de grandes capacités, mais ça n'a rien de comparé à ce que Dieu peut faire et accomplir. Il dit que non seulement les capacités, mais de ce que l'on peut penser qui est la bonne chose. Le texte dit, car mes pensées, mes desseins, sont tellement loin de les vôtres. Et savez-vous ce que j'aime dans ce texte aussi? Ça dit, autant mes voix, et le mot voix ici, c'est le même mot hébreu, alléluia, que l'on a lu ensemble dans Isaïe au point de départ, qui dit, je vais faire un chemin dans le désert. Le chemin, c'est le même mot hébreu, alléluia, que le mot ici, que les voix, ces voix ne sont pas nos voix. C'est le même texte, c'est le même mot hébreu dans ce texte-là. Et il y a vraiment une pensée ici dans le texte, les voies. Encore là, ce n'est pas seulement l'idée d'un chemin, mais il y a l'idée d'un voyage. Il y a l'idée d'une route, de quelque chose que ça t'amène à quelque part, que Dieu est en train de t'amener à un endroit. Ça dit le chemin dans lequel Dieu est en train de t'amener ou veut t'amener, c'est pas une destination que Dieu veut t'amener. C'est pas nécessairement la destination. C'est pas nécessairement ta destination, ta voie, ta route que toi sur laquelle tu voudrais marcher. Et on a besoin de choisir de marcher, d'être dirigé, d'avoir les desseins, les projets, les inventions de Dieu et de marcher sur la route et la voie, le voyage que Dieu nous donne de marcher. Vous savez ceci, je ne sais pas si vous le savez, mais vous êtes en voyage. Je pense que la terre est un voyage pour nous amener à une destination qui sera d'être avec le Seigneur. Mais on a besoin de réaliser que dans ce voyage-là, Dieu est celui qui veut marcher avec nous. Le Seigneur, alléluia, le sacrifice de Christ ne fait pas seulement que changer la destination, parce que le sacrifice de Christ, lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur, et que l'on invite, qu'on reconnaît qu'il est mort à la croix pour nous, non seulement, alléluia, il a donné sa vie, mais lorsqu'on l'accepte, ça change la destination. Mais je veux vous dire aussi que ça a un impact dans le voyage. Parce que Dieu nous donne de pouvoir vivre ce voyage avec lui, de pouvoir marcher avec lui. Et on a, dans le texte, Dieu va donner au peuple d'Israël une responsabilité. Tu as et j'ai une responsabilité dans ce voyage sur cette terre. Dieu va dire alors qu'il se retrouve devant, avec le peuple de Dieu qui va être là devant la mer Rouge et qui va voir les Égyptiens, Dieu va dire au peuple quelque chose à travers Moïse, dans Exode chapitre 14, verset 15. Ça dit, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi s'écris, pourquoi tu chiales? Vous savez ceci, des fois, là, chialer, ça ne change rien. Quand même, tu passes 15 minutes à chialer pour quelque chose qui est là, pour la neige qui tombe, si tu ne prends pas appel et tu n'appelles pas. J'aimerais ça un 15 minutes de chiolage, que ça m'épargnerait un 2 heures de grattage. Mais ça a l'air que ça ne marche pas de même. Dieu dit au peuple, qu'est-ce que j'entends? Dieu dit à Moïse, j'entends des cris, j'entends des plaintes, j'entends, qu'est-ce que j'entends? Pourquoi ces cris-là? C'est intéressant parce qu'il y a une question. Pourquoi le peuple est-il en train de crier? Pourquoi sont-ils en train de murmurer? Quand je lis cette question-là, il y a une question dans le Nouveau Testament, une déclaration dans le Nouveau Testament qui vient à mon esprit. Et c'est lorsque Jésus était dans le bateau avec ses disciples. Jésus dit, ou plutôt les disciples disent, « Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » Puis Jésus dit, « Gens de peu de foi. » Puis dans le terme grec, la pensée, je l'ai déjà dit ici à l'Église, c'est Jésus est en train de dire, « Comment pouvez-vous croire que je vais vous laisser vous noyer? Comment pouvez-vous croire un instant que je vous ai dit d'embarquer dans la barque puis je vous amènerai à mourir ici? » Comment un instant tu peux penser que je ne prendrais pas soin de toi? Comment tu peux, et bien sûr, toute la peur, la crainte et tout ça, et Dieu est en train de dire dans ce texte-là au peuple d'Israël, et vous savez ceci, ça m'apprend quelque chose, c'est qu'à travers des centaines d'années, l'homme n'a pas changé. Et je vais vous dire ceci, que depuis les disciples, vous et moi, on n'a pas changé. Si on pense qu'on est meilleur, je suis désolé, mais je peux juste péter votre ballon à ma tête. Parce que je ne pense pas qu'on est meilleur. Parce que souvent, on est dans cette dimension-là. Et Dieu va dire au peuple, à ce moment-là, pourquoi s'écrit? Dieu dit, parle, déclare quelque chose à Israël, Moïse. Dis-leur. Et ça dit, parle aux enfants d'Israël. Et là, Dieu dit, et qu'ils marchent. Qu'ils avancent. Je veux dire, ouais, mais il ne peut pas avancer, il y a la mer. Dieu dit, avance. Et dans la dimension, Dieu va dire dans le texte, il dit, toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Alléluia. Une mer à sec, c'est quoi? Pardon? C'est un chemin. Une mer, chaque bord qui a un à sec, c'est un chemin. C'est une place où on peut passer. Et Dieu dit, marche. Moïse fait une action. C'est pas drôle dans le sens que Dieu aurait pu faire, que Moïse n'avait pas besoin de lever le bâton. Dieu aurait pu faire totalement autrement de ce qu'il a fait. Mais Dieu a déjà voulu amener le peuple à marcher, à aller, de choisir, d'entrer, alléluia, d'aller dans la mer Rouge et de passer de l'autre côté, de marcher par ce chemin-là. Il devait le faire. Dieu va demander au peuple d'Israël un pas de quoi? De foi. Ça devient une marche à croire. Alléluia, de ce que Dieu veut accomplir et de ce que Dieu va faire. Je veux simplement ce matin, assez rapidement, vous partager de qu'est-ce que ça prend pour marcher, qu'est-ce qui nous dirige sur le chemin divin. Premièrement, Dieu veut te faire connaître cette voie-là. Le Seigneur veut que tu comprennes que tu marches sur chemin. Tu ne sais pas tout ce qui va se passer, mais Dieu veut que tu saches que tu y es sur le chemin divin. Je ne pense pas que Dieu veut nous laisser dans le néant. Je ne pense pas que Dieu veut nous laisser je veux revenir au texte d'Ésaïe, chapitre 43, le verset 19. Ça dit, ne la connaîtrez-vous pas? Alors, Dieu veut la faire connaître. Dieu veut que tu le saches, que tu marches sur le chemin divin. Que peut-être il y a des choses, tu te retrouves dans ta vie, alléluia, dans le désert, tu te retrouves dans des situations compliquées financièrement, de santé, familiale, travail, dans ta vie personnelle, certaines choses qui prennent place, tu ne comprends pas tout, mais au moins tu as besoin de savoir que tu marches sur le chemin divin. Deuxièmement, on a besoin de se laisser conduire sur ce chemin-là. Je vais vous dire ceci, nous n'irons pas tout seuls. Nous avons besoin que Dieu nous y amène. La Bible dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Et que l'Esprit de Dieu va vouloir nous conduire sur ce chemin-là. Dieu, alléluia, va vouloir t'amener. On a besoin de se laisser conduire. Dans Psaume, chapitre 32, le verset 8, ça dit, « Je t'instruirai et te montrerai la voie. » Et le mot « voie », c'est le même mot hébreu que dans les autres endroits, là. C'est le même mot, c'est le même mot qui est pris. Je t'instruirai la voie, le chemin, le voyage sur lequel je vais t'amener, je vais te conduire, je vais te montrer ce chemin-là. Je vais t'instruire sur ce chemin-là. Je t'instruirai, te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. Je vais devenir un conseiller pour toi sur ce chemin-là. Et le texte dit, j'aurai les regards sur toi. Je vais voir, je vais te voir marcher sur cette route-là. Je vais être là avec toi. Dieu est celui, on a besoin de se laisser conduire. Non seulement il va nous montrer la voie, mais alléluia, Dieu est celui qui veut nous conduire, mais on a besoin de se laisser conduire. Je te pose une question ce matin, je me la suis posée en préparant. Est-ce que je suis facile à diriger? Est-ce que Dieu a une facilité à me diriger à l'intérieur de ma vie? Est-ce que le Saint-Esprit a une facilité à me conduire, à me donner un sens de direction à l'intérieur de ma vie? Jérémie va dire ceci dans Jérémie chapitre 20, le verset 7. Ça dit, « Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Je t'ai permis que la persuasion gagne mon cœur. » Des fois, frères et sœurs, on veut pas que Dieu gagne notre cœur. On veut pas que Dieu nous persuade. On veut mais peut-être même pas entendre encore qu'on soit persuadé. D'un coup que... On a besoin de permettre à Dieu, Seigneur, persuade-moi. J'ai besoin des fois, peut-être étant dans une situation, Seigneur, persuade-moi dans cette situation-là. Convainc-moi, Seigneur, parle-moi. Esprit de Dieu, alléluia, convainc-moi. La Bible dit que l'Esprit de Dieu est un bon convaincant. Ça se dit-tu? Peut-être pas. Convaincateur. Je m'aide pas là, hein? Je m'aide pas dans mon... C'est quelqu'un qui va te dire quoi faire. On a besoin de se poser la question, est-ce que présentement dans ma vie, le Seigneur est celui qui est en train de me conduire, de me diriger? On a besoin de saisir que Dieu est celui qui veut le faire. Jérémie va dire, je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu. Wow! Et je suis chaque jour un sujet de raillerie. C'était pas beau nécessairement. Mais Jérémie a vu la gloire de Dieu. Il a vu la main du Seigneur entreprendre. Il a vu la gloire de Dieu accomplir à travers, à l'intérieur de sa vie. On a besoin, il dit, je me suis laissé persuader, il va dire à un autre endroit, je n'ai pas pour t'obéir, je n'ai pas refusé d'être un pasteur, je n'ai pas refusé d'être ce que tu m'as appelé à être. Pour t'obéir, je me suis laissé convaincre, Seigneur. Je me suis laissé diriger. Être facile à diriger, ça nous épargne souvent bien des soucis. Vous savez ceci, la vie n'a pas besoin d'être dure pour qu'on apprenne. Je dis des fois que la vie va nous apprendre des choses, mais ça n'a pas besoin que la vie nous apprenne des choses. Le Saint-Esprit, bien souvent, bien avant, veut nous donner et nous montrer les choses. Je n'ai pas besoin de me donner un coup de marteau sur un pouce pour savoir que ça fait mal. Mais on a besoin, alléluia, de permettre au Seigneur, lorsque je regarde des hommes dans la parole de Dieu comme Jonas, donc Jonas, c'est celui qui va aller vers Ninive, mais il va sentir l'estomac de poisson, par exemple. Je ne sais pas qu'est-ce que ça sent, mais ça ne doit pas sentir bon. Je suis juste en train de vous dire qu'on n'a pas besoin, si Jonas, il est allé, mais s'il serait juste allé tout de suite, il n'aurait pas vécu ce qu'il a vécu. La gloire de Dieu se serait accomplie. Oh, il y avait toutes sortes de raisons qui semblaient à ses yeux être valables, mais la réalité, c'est que c'était la volonté de Dieu. Abraham va se retrouver dans une situation compliquée avec Ismaël et Isaac, tout simplement parce qu'ils n'auront pas marché sur le chemin divin pendant un certain moment de leur vie. Ils vont se retrouver dans des situations compliquées à l'intérieur de leur vie. Il y a des hommes et des femmes dans la parole de Dieu. Saül va se retrouver à ne pas marcher sur le chemin divin, va essayer de faire des choses de Dieu, même offrir un sacrifice. Puis Dieu va dire, alléluia, à Saül, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. À travers tout ça, alléluia, ça va nous épargner bien les soucis. Parce que souvent, ce n'est pas, on ne doit pas être conduit parce que ce qui semble être une opportunité. Mais on veut être conduit par ce qui est la volonté de Dieu. Vous savez ceci, on ne laisse pas le Seigneur nous conduire, ou plutôt, on ne laisse pas nos vies être conduites par les opportunités. Une opportunité, c'est une opportunité, mais une opportunité n'est pas nécessairement la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu est toujours la meilleure opportunité. Une opportunité n'est pas nécessairement la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu est toujours la meilleure opportunité dans laquelle Dieu nous appelle à marcher. Pour ta vie, pour ce que Dieu a pour toi. Lorsqu'on regarde, alléluia, David. David a vu lorsqu'il Saül voulait le mettre à mort. Il y aurait des gens, il va se retrouver à un endroit, il va pouvoir couper un bord du vêtement de Saül. Les gens vont dire à Saül, à David, les amis proches de David vont dire, « David, tue-le, Saül. C'est une opportunité que Dieu te donne pour avoir la délivrance, David. C'est une opportunité que tu as maintenant. Si tu ne le fais pas maintenant, il n'y en aura peut-être plus jamais d'opportunité. » Et vous savez ceci, David n'a pas vu une opportunité. Il a vu un moment pour mettre la parole de Dieu en pratique. Il a dit, loin de moi la pensée de toucher au loin de l'Éternel. Tu peux tuer l'homme qui veut te tuer pendant un certain nombre de temps. Tu peux saisir et avoir la délivrance. Mais vous savez ceci, la réalité, c'est que même dans certains pays présentement, mais dans certains endroits, puis même au milieu du peuple d'Israël, il y a eu des moments où la royauté s'est gagnée par le meurtre. Puis David a dit, je ne serai pas roi de cette manière-là. Je ne deviendrai pas roi. Il était déjà loin pour devenir roi. Mais il a choisi de venir et d'être le roi que Dieu l'appelait à être. Alléluia, en passant par l'endroit, le chemin divin à laquelle Dieu l'appelait de passer. David a choisi, alléluia, pas le chemin des hommes, pas la volonté des hommes, pas la pensée des hommes, pas ce que les gens pouvaient dire, pas même ce que les gens pouvaient, dans certaines situations de David, à ce moment-là, pouvaient dire que c'était une opportunité. Ils ont vu à ce moment-là, alléluia, David a vu un moment pour mettre la parole de Dieu en pratique. Vous savez, ce n'est pas nos émotions, c'est pas les pensées humaines, c'est pas tout ce qui pourrait nous conduire ou nous diriger. C'est pas une opportunité, mais c'est la volonté de Dieu que nous devons suivre et choisir. Ne voyons pas les choses comme nos yeux des fois voudraient les voir, comme notre chair voudrait les voir, mais voyons les choses à la lumière de ce que Dieu voudrait nous donner, de les saisir et d'y marcher pleinement. David avait foi que Dieu pourrait l'amener à être roi, non pas de la manière en tuant le roi Saül, mais alléluia, de ce que Dieu lui-même pourrait l'amener et à être sur le trône qu'il lui avait promis, pour lequel Dieu l'avait oint. Et on a besoin de saisir cela. Le chemin divin, c'est le chemin, alléluia, que Dieu seul peut faire et accomplir, et qui veut nous instruire, qui veut faire pour le meilleur de nos vies. Dans Isaïe 48, 17, « Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a sauvé, le Saint d'Israël, moi l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Je vais te conduire. » Le but de Dieu, c'est le bien, de te faire du bien à l'intérieur de ta vie. Et je vais dire ceci. On a besoin d'avoir confiance en Dieu. Et ici, je ne veux pas lier la confiance avec la foi. Ça va être ma prochaine pensée. Mais je ne veux pas lier la foi avec la confiance ici. Je veux amener la confiance dans la dimension de juste avoir confiance en Dieu. Confiance pas dans ce qu'il va faire. La foi nous donne d'avoir souvent confiance dans ce que Dieu est capable de faire. Mais je veux ici vous amener, nous amener la pensée d'avoir confiance dans ce que Dieu est. Que Dieu, alléluia, le chemin qu'il a fait, ce n'est pas un chemin pour nous tromper. Ce n'est pas un chemin pour nous mélanger. Ce n'est pas un chemin pour nous faire du mal. Ce n'est pas un chemin pour le peuple de Dieu, alors qu'ils vont être dans le désert, vont commencer à dire, « Dieu, nous as-tu amenés ici pour mourir? » Puis le Seigneur, as-tu fait ça pour ça? C'est comme si on est en train de mettre en doute. Encore là, quand Jésus va dire aux disciples, « Est-ce que vous pouvez croire un moment que je vous laisserai vous noyer? Est-ce que vous pouvez penser un moment que j'aurais la capacité, dans le sens de, dans ma personne, de ne pas prendre soin de vous autres? Bien sûr, je pourrais vous abandonner, mais je ne le ferai jamais. Parce que Dieu est un Dieu qui est fidèle, pas dans son action d'abord et avant tout, mais dans sa personne. Dieu est fidèle. Dieu est bon. Dieu est grand. Dieu est juste. Dieu est saint. C'est ce qu'il est. Et on doit avoir confiance dans ce qu'il est. Vous savez, une relation avec un conjoint, d'abord et avant tout, la confiance n'est pas dans ce qu'il fera, mais la confiance a besoin d'être dans ce qu'il est. Et lorsque cela a pris place, si je n'ai pas confiance, alors je peux croire qu'il va me mentir. La réalité, c'est qu'on a besoin d'avoir une confiance dans le Seigneur et de réaliser que Dieu est celui qui veut le faire, qui veut l'accomplir. Et que bien sûr, dans ce qu'il va faire et accomplir, ça c'est la foi de ce qu'il peut faire et tout accomplir. Impossible, on ne peut pas marcher sur le chemin divin si on n'a pas cette foi-là de ce que Dieu va entreprendre, que Dieu est celui qui va agir à l'intérieur de nos vies, que Dieu va montrer sa gloire à l'intérieur de nos vies. J'ai invité les musiciens à venir me rejoindre. Alléluia. Peut-être qu'on peut chanter, peut-être Hélène, tu peux trouver, montre-moi la voix, j'irai. Le chant, j'irai. On a besoin, alléluia, que le chemin divin d'avoir cette foi-là, de croire que Dieu entreprendra. Je ne sais pas où tu es, mon frère, ma sœur, ce matin. Je ne sais pas à quel endroit tu te retrouves à l'intérieur de ta vie. Peut-être que tu sembles être pris en sandwich d'une façon ou d'une autre. Peut-être qu'il y a quelque chose qui semble que tu es comme pogné dans une affaire. Je veux juste te dire, mon frère, ma sœur, ce matin, alléluia, que tu as besoin d'avoir la foi, de croire que Dieu est celui qui peut entreprendre. Vous savez ceci, lorsqu'on regarde dans la parole, je vais juste amener cet exemple de Naomi et de Ruth dans la parole, dans lequel ils se retrouvent à ce moment-là, les deux, ils ont perdu leur mari, ils sont veuves, ils vont retourner, ils sont dans une situation qui est compliquée. Et Naomi va dire à Ruth, Ruth, retourne chez ton pays, retourne où ce que tu deviens. Ruth, va-t'en là-bas, j'ai rien à t'offrir, j'ai pas d'autre fils à te donner comme mari. Et je vais vous dire ceci, Ruth a regardé ses moyens, ses possibilités, a regardé ses moyens, ses possibilités. Mais Ruth va dire, alléluia, ton Dieu sera mon Dieu. le Dieu, ton Dieu, qui peut pourvoir, Ruth. Que peut-être t'as oublié qu'il pouvait entreprendre, Naomi, pardon. Que t'as oublié, Naomi, que ton Dieu, là, celui qui t'a amené ici, qui a fait des prodiges, qui a sauvé ton peuple, que ton peuple, que Dieu a délivré des Égyptiens. Naomi, ce Dieu-là va être mon Dieu. Et ce Dieu-là va prendre soin de nous autres, Naomi. Dieu va entreprendre. J'ai confiance que Dieu va m'amener. J'ai confiance que Dieu va entreprendre. J'ai confiance que Dieu va agir. Parce qu'il est vrai que sur le chemin de Dieu, alléluia, c'est pas nécessairement toujours facile. Mais on a besoin d'apprendre à voir la joie de Dieu sur ce chemin-là. Dans Proverbe, Dieu dit, mon fils, mon enfant, donne-moi ton cœur. Mon fils, donne-moi ton cœur, ta vie, ton être. Et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Qu'il y ait de la joie à marcher sur mon chemin. La décision, alléluia, peut-être que tu vas avoir besoin de choisir. Peut-être que ce matin, tu es devant un dilemme dans ta vie, de choix, de décision. Je vais t'encourager, choisis le chemin de Dieu. Ce n'est pas nécessairement facile, mais c'est toujours glorieux. La carte que je vous ai montrée tantôt du peuple de Dieu pour leur marche, pour se rendre au pays de Canaan, ce n'était pas le chemin le plus facile. Mais c'est le chemin qu'ils ont vu la mer rouge s'ouvrir. C'est le chemin où ils ont vu la victoire de Dieu, alléluia, et que Dieu les a délivrés. Pas juste de quitter le pays d'Égypte, mais les délivrer des Égyptiens. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Dieu n'a pas seulement fait sortir son peuple de l'Égypte, mais il les a délivrés des Égyptiens. Cette puissance pour leur vie, dans leur vie. Sur ce chemin, il y aura le prodige de Dieu qui entreprendra. Il y aura le miracle de Dieu qui arrivera. Parce que Dieu ne regarde pas le chemin qu'il est en train de tracer sur ta vie en disant, est-ce que je vais être capable de le faire dans sa vie? Dieu peut tout faire pour ta vie. Dieu peut tout entreprendre. Peut-être pas ce que toi, tout le temps, tu voudrais qu'il fasse. Parce que bien souvent, ce qu'on voudrait qu'il fasse, savez-vous quoi? C'est ce qu'on voudrait que la chair voudrait qu'il fasse. Mais Dieu ne veut pas le faire. Parce que le désir de l'esprit n'est pas le même que celui de la chair. Il y a un texte que j'aime dans la parole, dans Isaïe chapitre 65, verset 2. C'est Dieu qui parle de son peuple, de ses enfants. Et ce matin, si c'est toi, j'aimerais que tu entendes ce verset-là comme un appel de Dieu sur ta vie. Ça dit, j'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise au gré de ses pensées. Mais le texte dit, j'ai tendu mes mains tous les jours. Je veux te dire, mon frère, ma sœur, ce matin, alléluia, qui que tu es dans ce lieu aujourd'hui, que Dieu est celui qui a une main qui est tendue vers toi. Vous savez ceci, bien souvent, on pense que Dieu, la direction de Dieu va être que Dieu nous pointe où on doit aller. Je vais vous dire que ce n'est pas ce que moi je pense. Moi, je ne pense pas que Dieu me pointe là où je dois aller. Je vais vous dire que Dieu me prend par la main pour m'y amener. Dans le désert, alléluia, il y avait la nuée qui conduisait le peuple. Il y avait, alléluia, la nuée qui amenait le peuple ce qu'il pouvait être. Et la nuit, il y avait le flambeau de Dieu qui conduisait le peuple, qui dirigeait le peuple. Pourquoi? Parce que Dieu était avec eux. Dieu ne les a pas amenés à la mer rouge en disant, allez-vous-en là-bas. Dieu les a amenés jusque-là. Le Seigneur est celui qui les a amenés jusqu'à cet endroit. Dieu ne veut pas te montrer où tu dois aller. Dieu veut t'y amener. Dieu veut marcher avec toi. Le Seigneur veut, alléluia, que tu te laisses facilement conduire, diriger. Que tu lui permettes, alléluia. Dieu ne te prendra pas la main. Dieu va tendre sa main pour que tu mettes ta main dans la sienne. C'est ce que Jésus a fait avec les jeunes hommes riches. C'est ce que Jésus a fait avec ses disciples. Jésus n'a pas pogné Pierre par les cheveux et l'a traîné jusqu'à... Et il a dit à Pierre, « Pierre, viens et suis-moi, Pierre. Permets-moi de prendre ta main. Permets-moi de prendre ta main. » Le jeune homme riche, Jésus va dire au jeune homme riche, « Alléluia, va avant tout ce que tu as, puis laisse bien, puis suis-moi. » Ce que Jésus est en train de dire, « Laisse-moi prendre soin de toi. » Laisse-moi, alléluia, juste te conduire, te diriger, te guider. Laisse-moi pourvoir à tes besoins. Laisse-moi entreprendre ce qui était dans ta vie, ce qui était tout ton soutien, toute ta sécurité, ce qui était toute ta valeur. Dans notre société, le monde aurait probablement dit, « Amène-la ton argent, on veut essayer d'en bénéficier. » Jésus va dire, « Non, non. » Jésus fait les choses à l'envers, qui est à l'endroit. Quelle est la bonne façon. On ne se sert pas de ce que les gens peuvent donner pour les attirer. Mais Jésus, alléluia, t'offre pas. Lui, il t'invite. Jésus t'offre pas à venir avec lui pour ce que tu as. Il te tend la main, alléluia, pour te conduire et te diriger. Et il est celui qui va le faire. Le mot tendre, c'est l'idée de d'étendre, de déployer. C'est l'idée d'une main qui n'est pas juste comme ça, mais c'est l'idée d'une main qui est demain. Dieu tend aussi loin qu'il peut l'attendre, aussi loin qu'il peut le faire, aussi loin qu'il peut l'accomplir. C'est pas, puis essaye de mettre ta main dans la mienne. C'est Dieu tend aussi loin que la capacité de le faire. La possibilité de le faire. Dieu connaît et sait jusqu'à où tu peux aller. Et jusqu'à cet endroit-là, Dieu va aller. C'est ça que le texte veut dire. Tous les jours, j'ai tendu mes mains. Je suis allé aussi loin que j'ai pu aller vers un peuple qui ne voulait pas de ça. Et je l'ai fait chaque jour. Il n'a pas fait, puis il dit, ah, après deux fois, trois fois, puis quatre fois, puis ils n'ont pas voulu, puis ils ont dit, qui s'arrange donc? Le texte dit, chaque jour je l'ai fait, chaque jour j'ai voulu le faire. Est-ce qu'on peut pencher nos têtes, fermer nos yeux un instant? Alléluia. On va faire quelque chose ensemble ce matin. Peut-être que tu es dans ce lieu aujourd'hui. Ça n'a rien à faire avec moi, ce que je vais te parler maintenant. Mais peut-être que tu es dans ce lieu aujourd'hui et tu as besoin de saisir cette main-là de Dieu pour t'amener sur ce chemin divin. Peut-être que tu l'as lâché pour t'accrocher à autre chose. Peut-être que tu l'as lâché pour saisir autre chose. Mais aujourd'hui, tu as besoin de choisir. Peut-être que cela a amené dans des dimensions dans ta vie qui sont là, d'esclavage, d'autres, de colère, d'amertume, de certaines choses qui sont en train de briser ta vie. Mais aujourd'hui, tu veux dire, Seigneur, Jésus, je veux juste saisir ta main. Je veux juste, Seigneur, juste mettre ma main dans la tienne pour que tu la prennes, ma main, Seigneur. Pour que tu la saisisses, ma main, Seigneur. Parce que je veux marcher sur ce chemin divin-là. Seigneur, Dieu ne te promet pas que tout va bien aller. Mais Dieu veut te déclarer que dans tout ce que tu vas vivre, il va être là. Il va te supporter, te tenir, va te garder. Et si ce matin, alléluia, tu as besoin de cela, et t'aimerais qu'on puisse prier pour toi, disant, Seigneur, je veux saisir, je veux que tu me prennes la main, je veux te mettre ma main dans la tienne, je veux marcher sur le chemin divin. Peut-être tu reconnais que tu as pris une route qui n'était pas la bonne. Et que ce matin, tu voudrais qu'on puisse prier pour toi. Je veux juste que tu lèves ta main. Merci. Merci. Oui, merci. Il y a plusieurs mains. Merci beaucoup. Oui, merci. Merci. Oui, merci. On peut baisser la main après. Merci. Je ne vais pas mettre personne à l'agenda. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Merci beaucoup. Alléluia. Une dernière fois, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Merci. Peut-être que présentement, tu te sens comme le peuple de Dieu, alléluia. Dans un instant, on va prendre un moment de prière ensemble, on va chanter ce chant. Peut-être que tu es dans ce lieu ce matin et tu vis des moments particuliers difficiles. Tu te sens pris comme le peuple de Dieu avec une armée sur un bord, puis la main rouge sur le bord, t'es comme pogné dans le sandwich. Il y a de l'inquiétude, il y a de la crainte, il y a de la peur, il y a des choses qui prennent place à l'intérieur de ta vie, de ton cœur. Il y a des choses qui sont là, peut-être même de l'angoisse qui prend place. Peut-être que il y a plutôt du chicanage, du chiolage qui a pris place. Puis ce matin, tu dis, j'ai besoin que Dieu fasse un miracle sur ce chemin-là. J'y suis là où Dieu m'a conduit, mais j'ai besoin d'un miracle, j'ai besoin que Dieu me donne sa paix, j'ai besoin que l'Éternel, que Dieu entreprenne. Si tu aimerais qu'on puisse prier pour toi ce matin, juste lever ta main. Merci. Oui, merci beaucoup, merci. Merci beaucoup, oui. Merci. Merci. Oui. Quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on peut se tenir debout ensemble? Oui, merci beaucoup, merci beaucoup. Dame à l'arrière. On va faire une chose et tu as la pleine liberté de le faire ou de ne pas le faire. Je vais quand même prier pour toi ce matin. Mais ici à l'église, ça arrive quelquefois, même assez souvent, qu'on va chanter un chant et on va faire un appel à Nadège. Je ne veux pas mettre personne à la gêne. Alors c'est pour ça que tu as toute la liberté de le faire. Peut-être même que tu n'as pas levé la main ce matin, mais tu as juste le goût, pour une raison ou une autre, de venir devant le Seigneur alors qu'on va chanter ce chant. J'irai, montre-moi la voie, dis-moi où aller. Alléluia. Et peut-être que ce matin, tu as juste besoin de venir devant le Seigneur pour toutes sortes de raisons, pour quelque chose. Tu as juste besoin, tu as juste envie de venir. Si tu as levé ta main, puis tu veux venir, tu peux le faire. Sois à l'aise. On n'est pas ici pour un show, on n'est pas ici pour quoi que ce soit. Mais si tu aurais envie que je puisse prier avec toi personnellement ou quelqu'un d'équipe, tu peux juste le faire ce matin. C'est une opportunité que l'on a de pouvoir le faire. Alors, on va chanter le chant. Si tu veux juste venir, sois à l'aise. Si tu veux rester à ta place, tu peux le faire aussi. Mais, alléluia, chantons ce chant. Ce chant dit ceci. Montre-moi la voie, dis-moi où aller. Alléluia, si tu es là, j'irai. Si tu ouvres la porte, celle qu'on ne peut fermer, si tu es là, j'irai. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur ses eaux. Chante ce chant de tout ton cœur ce matin. Chante-le comme une prière. Chante-le comme un désir dans ton cœur. Et peut-être que tu as besoin aujourd'hui, ce matin, de dire, Seigneur, j'ai besoin de faire un pas de foi. J'ai besoin de te faire confiance et je vais le faire. Juste en toi, le Seigneur, aujourd'hui, fais-le devant toi. Si tu avances, fais-le sans gêne, on va prier ensemble. Alléluia.